Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons voir 5 stratégies pour échapper à l'impôt sur la succession. Alors, en tant qu'investisseur, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le marché de la succession est un marché très lucratif pour l'administration fiscale qui se voit taxer en fait les mêmes biens à chaque génération. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément comme ça quand on commence à investir, on achète un bien, deux biens, mais la question de la succession, c'est quelque chose qu'on peut prendre en considération bien avant d'être en âge, on va dire, de prendre sa retraite. On peut le faire et c'est même conseillé de le faire beaucoup plus tôt pour ne pas être pris au dépourvu. Être pris au dépourvu, ça signifierait en fait payer plein pot les droits de succession qui peuvent être extrêmement salés. Et donc, dans cet épisode du podcast, l'idée c'est de vous présenter 5 stratégies qui vont vous permettre de réduire considérablement cet impôt, voire de l'annuler si vous vous débrouillez bien. Et c'est d'autant plus important de s'intéresser à la succession bien avant l'âge, un âge avancé, que l'idée en fait c'est de pouvoir sauver finalement le fruit d'une vie entière, le fruit du travail d'une vie entière, parfois sur plusieurs générations, pour que le patrimoine constitué ne soit pas majoritairement ponctionné par le fisc et puisse être transmis justement à vos héritiers sans impôt dans sa plus belle part. En fait, la succession, c'est la plupart du temps source de stress pour la famille et aussi source d'érosion du patrimoine familial si elle n'a pas été suffisamment bien préparée à l'avance. Et donc, ce qui est vraiment dommage si l'on connaît le temps nécessaire à la construction d'un patrimoine. Parce que en fait, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que les héritiers vont devoir non seulement payer des droits de succession, mais parfois vendre un bien dans la précipitation, puisqu'ils n'ont pas suffisamment de fonds pour régler ces droits de succession. Donc, ils sont obligés de vendre un bien pour récupérer du cash pour pouvoir régler les droits de succession. Et souvent, ces biens sont vendus rapidement parce qu'on a un délai très limité justement pour régler les droits de succession. Donc, dans cet épisode du podcast, on va vraiment s'intéresser uniquement à l'immobilier. Dans la succession, on ne va pas traiter tout ce qui est biens mobiliers, les meubles, les bijoux, tout ça, ce ne sera pas traité dans le cadre de ce podcast, ou même des sociétés. Donc, dans tous les cas, il conviendra de consulter un notaire pour vous informer précisément de vos droits et devoirs en termes de succession. Enfin, notez que la stratégie de transmission du patrimoine ne doit pas uniquement prendre en compte l'exonération des droits. Il s'agit aussi de prendre en considération tous les autres facteurs qui entrent en jeu, notamment ceux tenant à la protection des enfants, du conjoint survivant, qui ne feront par ailleurs pas l'objet de cet épisode du podcast. Sans plus attendre, première stratégie, la transmission du vivant peut permettre d'éviter une bonne partie des impôts de succession. Alors, nous allons voir en fait le don d'un ou plusieurs biens. Actuellement, c'est-à-dire à l'heure de la réglementation actuelle, au moment où vous écoutez, ou au moment où le podcast est réalisé, tout parent peut transmettre 100 000 euros à chacun de ses enfants tous les 15 ans en toute franchise d'impôt. Le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, n'a aucun impôt à régler si dans les 15 années suivantes, il perçoit de nouveau une partie du patrimoine du même parent. De cette façon, ça permet en fait d'alléger considérablement la note de l'impôt. Et si on s'y prend suffisamment à l'avance, on peut très bien renouveler 2-3 fois tous les 15 ans en fait l'opération. Ce qui fait qu'un parent, s'il s'y prend bien, imaginons, il donne 100 000 euros à chacun de ses enfants en 2020, puis en 2035, puis en 2050. Dans ces cas-là, il peut réussir à donner 300 000 euros à chacun de ses enfants en toute légalité et sans que le fisc ne réclame rien du tout. Bien entendu, si la réglementation en matière de donation et de succession change d'ici là, ce ne sera pas forcément le cas, puisque il faut savoir que par le passé, l'abattement de 100 000 euros pouvait se renouveler tous les 6 ans au lieu de 15 ans actuellement. Et donc, on est passé d'une durée de 6 ans à 15 ans et d'un montant de 150 000 euros environ à 100 000 euros. Donc, on voit que les avantages petit à petit sont grignotés par la réglementation. Donc, cette méthode de transmission du vivant reste pour autant particulièrement intéressante pour les familles qui ont beaucoup de patrimoine et qui n'en ont pas besoin pour vivre. Il suffit ainsi de prendre les devants, d'anticiper, et ça permettra à vos héritiers d'échapper à la note salée des droits de succession. Prenons un exemple pour vous illustrer la donation du vivant et vous illustrer le montant qui peut être économisé sur cet impôt sur la succession. Alors prenons l'exemple d'un joli patrimoine, une valeur de 3 300 000 euros. Si, imaginons que la personne a 3 enfants et lors de la succession, chaque enfant héritera d'un actif net imposable, si on répartit à parts égales le patrimoine de 3 300 000 euros déduit de l'abattement de 100 000 euros par enfant, on arrive à 1 million d'euros par enfant. Donc chacun devra payer sur la base du barème du calcul de l'impôt sur la succession 250 678 euros de taxes à régler. Ce qui ampute au final le patrimoine familial de 3 fois cette somme, c'est-à-dire 758 034 euros tout de même. Donc maintenant, si vous n'attendez pas le dernier moment et que vous n'avez pas besoin justement de ce patrimoine pour vivre, vous pouvez très bien décider d'en donner une première tranche de 100 000 euros, de 100 000 euros par enfant, donc 3 fois 100 000 euros à par exemple vos 45 ans. Et rééditer l'opération 15 ans plus tard à vos 60 ans. Donc à vos 75 ans, vous aurez déjà transmis l'équivalent de 600 000 euros de patrimoine à vos enfants sans passer par la case impôt. Donc les droits de succession de vos enfants sont alors sur une base de 800 000 euros à votre succession, ce qui fait en fait une économie de 69 716 euros pour chacun de vos enfants qui ne devront payer qu'un montant entre guillemets de 182 000 euros et des poussières. Voilà, tout simplement, l'abattement de 100 000 euros, il faut savoir que il est valable pour les donations du vivant, mais aussi pour la succession. C'est-à-dire que si un parent disparu a déjà donné un bien ou d'importantes sommes de son vivant, on va dire que la carotte est déjà entamée. Et sauf si ces donations sont suffisamment anciennes, l'abattement se reconstituant tous les 15 ans, dans ce cas, il pourra pas jouer double compte. Justement, il faut vraiment attendre ce délai de 15 ans à chaque donation et après à la succession. Deuxième stratégie, la stratégie du démembrement des biens qui peut réduire considérablement l'impôt sur la donation et éviter l'impôt sur la succession. Alors, qu'est-ce que ce démembrement ? D'un point de vue juridique, il faut savoir qu'un bien immobilier se compose d'une part de nue propriété et d'une part d'usufruit. L'ensemble des parts constitue la pleine propriété. Si vous achetez un bien immobilier en nom propre, vous devenez propriétaire en pleine propriété. C'est-à-dire que vous avez à la fois l'usufruit et la nue propriété. Vous pouvez décider de démembrer le bien, c'est-à-dire de séparer les parts de nue propriété et d'usufruit. Donc finalement, le démembrement, ça correspond à la séparation du bien selon l'usufruit et la nue propriété. Donc pour bien comprendre, en fait, la nue propriété, ça confère à celui qui en bénéficie le droit de disposer d'un bien sans en user ni en retirer les revenus ou les produits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y habiter comme on veut, on ne peut pas toucher les loyers comme on le voudrait. On est juste, on a juste droit d'arbitrage sur ce bien au niveau de son appartenance. Donc on n'a ni le droit d'usage, ni la jouissance. On sera en revanche pleinement propriétaire au décès de l'usufruitier. Pour l'usufruit, l'usufruit confère à celui qui en bénéficie le droit d'utiliser le bien, de l'habiter, de recueillir les fruits ou les revenus, c'est-à-dire les avantages produits régulièrement par le bien. Et l'usufruitier peut céder son droit d'usufruit par donation ou vente, mais ne peut pas vendre le bien. En cas de démembrement de l'un de vos biens locatifs, par exemple, vous conservez l'usufruit. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que je vous présente. Vous conservez l'usufruit et vos héritiers reçoivent la nue propriété. Dans ce cas-là, la valeur du bien transmis est répartie forfaitairement selon un pourcentage entre l'usufruit et la nue propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc concrètement, ce pourcentage permet de calculer la base imposable des héritiers devenus dans ce cas-là nue propriétaire, base qui sera d'autant plus réduite que la donation se fait jeune. Donc, prenons un exemple. Si vous donnez un bien et que vous avez par exemple 62 ans, dans ce cas-là, la valeur du bien serait répartie à 50% en usufruit et 50% en nue propriété. Donc vous voyez l'avantage, donc si vous ne voyez pas, voilà ce qui est l'avantage de cette stratégie, puisque la donation du vivant via le démembrement, elle présente deux avantages de taille. Premièrement, elle permet de réduire considérablement les droits de succession payés par les enfants. Donc ça, je vais m'expliquer juste après. Et elle vous permet, tout en leur permettant d'avoir ces droits de succession très réduits, voire exonérés, de bénéficier des loyers jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire que vous pouvez très bien donner la nue propriété tout en gardant l'usufruit et donc profiter des fruits de ce bien. Si vous louez, vous gardez les loyers pour vous. Si vous y habitez, vous pouvez continuer à y habiter jusqu'à la fin de vos jours. Donc, imaginons un exemple. Monsieur Durand, âgé de 65 ans, possède deux appartements en location d'une valeur de 130 000 euros chacun. Il décide de favoriser ses deux enfants par une donation du vivant après démembrement du bien. Donc, par rapport à son âge, 60% du bien est coté en nue propriété et le reste en usufruit. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, ses enfants vont hériter de la nue propriété. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que la base imposable de la donation se fait seulement sur le montant correspondant à la nue propriété, c'est-à-dire 60% de la valeur des biens. Pour ce qui nous concerne, 60% de 130 000 euros fois deux appartements, ça correspond à 156 000 euros répartis entre les deux enfants à parts égales, c'est-à-dire 78 000 euros par enfant. Déduction faite de l'abattement forfaitaire de 100 000 euros, donc 100 000 euros pour chaque enfant, les enfants ne paieront donc pas d'impôt sur cette donation et hériteront de l'usufruit gratuitement, et c'est ça qui est vraiment intéressant, au décès de leurs parents sans payer d'impôt. Puisque la stratégie du démembrement, en fait, permet uniquement de payer, on va dire, une donation, d'avoir une base imposable sur la donation quand on démembre, au moment où on démembre, c'est-à-dire au moment où les enfants récupèrent la nue propriété. Mais au moment au décès, il n'y a plus du tout de droit de succession et les enfants récupèrent gratuitement. Il n'y a pas d'impôt sur la succession à ce moment-là pour récupérer l'usufruit. Ils deviennent pleinement propriétaires du bien à la mort, au décès des parents. Comparativement, si M. Durand ne fait pas de donation du vivant par démembrement à sa succession, la base imposable sera calculée sur 100% de la valeur du bien, c'est-à-dire 260 000 euros. Et si vous faites le calcul, c'est-à-dire déduction faite des 100 000 euros par enfant, il reste 260 moins 100 000 fois 2, il reste 60 000 euros, soit 30 000 euros par enfant, ce qui correspond à un impôt de 4 194 euros d'impôt sur la succession. Alors si vous voulez faire vos petits calculs vous aussi, vous pouvez très bien utiliser le simulateur des droits de succession que vous trouverez très facilement sur Internet. Donc tout simplement, s'ils ne peuvent pas débourser ces 4 193 euros, ils seront obligés de vendre le bien et ils auront seulement 6 mois pour le vendre. Ce qui fait que cette situation d'urgence peut aussi amener une décote en plus du bien parce qu'ils vont peut-être vendre en dessous du prix du marché. Du coup, encore une érosion du patrimoine. D'où l'intérêt de s'y prendre encore une fois à l'avance via ces stratégies du démembrement par exemple. Notez qu'en cas de vente d'un bien démembré en donation, il est important de prévoir le réinvestissement des fonds dans un bien lui-même démembré pour conserver l'avantage fiscal. Pour ce faire, il s'agit d'intégrer dans l'acte de donation de la nue propriété du bien une clause stipulant qu'en cas de revente du bien, les produits de la cession seront réinvestis dans un bien en démembrement de propriété. Donc, par exemple, un nouveau logement dont les enfants auront la nue propriété et les parents pourront habiter jusqu'à la fin de leur jour, par exemple. Troisième stratégie, la renonciation. Alors la renonciation, c'est une technique également qui vous aidera à réduire fortement la note fiscale de vos enfants lors de la succession. Alors, la renonciation, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que c'est un droit, en fait. On a un droit à la renonciation. C'est un droit fondamental puisque tout héritier peut accepter une succession purement et simplement ou à concurrence de l'actif net ou alors tout simplement la refuser. Et la renonciation, ça correspond justement à refuser sa succession. Alors, pourquoi refuser une succession ? Que dans ce cas, Lorsqu'on refuse un héritage, ce ne sont pas les autres héritiers qui se partagent votre part, ni l'État. Si vous refusez, simplement le patrimoine est alors transmis aux héritiers suivants dans l'ordre successoral, c'est-à-dire en premier lieu vos enfants ou alors les autres membres de votre famille si vous n'avez pas d'enfants. Tout comme le don du vivant, vous ne devez pas avoir besoin de l'héritage à venir pour vivre, justement si vous faites une renonciation. Donc les conséquences de la renonciation, tout simplement, c'est que vous transmettez votre abattement fiscal à vos héritiers. Ainsi, la renonciation peut permettre de sauver, par exemple, une maison de famille, là où le fisc, sans grande pitié, obligerait les descendants à s'en séparer pour régler la note. Avec la renonciation, c'est l'héritier seul qui décide de refuser son héritage sans besoin de l'accord des autres héritiers. Ça, c'est quand même un avantage intéressant. Donc, prenons l'exemple justement pour illustrer cette stratégie de la renonciation. Scénario numéro 1, sans renonciation. Monsieur Dujardin, on va dire qu'il est propriétaire d'une villa évaluée à 200 000 euros. Il a 48 ans et donc il est dans une situation financière confortable, il n'a pas besoin d'une autre source d'argent pour vivre. À la mort de son père, il va recevoir un héritage de la maison familiale qui équivaut à 100 000 euros. S'il accepte la donation, la succession plus exactement, s'il accepte la succession, Monsieur Dujardin ne paiera pas d'impôt sur la succession du fait de son abattement de 100 000 euros puisque ça équivaut au montant de la maison. Par contre, ce montant va s'ajouter à son patrimoine avec sa maison actuelle qui est de 200 000 euros, donc le patrimoine grimpera à 300 000 euros. À son décès, son fils et sa fille hériteront de l'intégralité du patrimoine de 100 000 euros. Pour simplifier, on va dire que c'est eux qui héritent de l'intégralité du patrimoine de 300 000 euros. Et une fois l'abattement fiscal par enfant déduit, l'actif net imposable, 200 000 euros, est réparti entre les deux enfants à parts égales, soit 50 000 euros chacun. Donc finalement, les droits à payer seront de 16 388 euros, c'est-à-dire 8 196 euros par enfant. Scénario numéro 2. Cas d'une renonciation. Monsieur Dujardin décide que il n'a pas besoin d'hériter lui en nom propre de la maison familiale 200 000 euros. Il décide de renoncer. Donc, du fait de la renonciation, Monsieur Dujardin transmet également son abattement à ses enfants, son abattement de 100 000 euros à ses enfants à parts égales qui se le répartissent finalement. Ça équivaut à 50 000 euros chacun. Dans ce cas précis, chaque enfant reçoit donc une part de la maison correspondant au montant de l'abattement, 50 000 euros, et ils ne sont donc pas imposés sur la succession. Ça, c'est premier tour de passe-passe. Au décès de Monsieur Dujardin, les enfants héritent de la villa de leur père, qui est estimée à 200 000 euros. Pour faire simple, elle n'a pas pris de valeur, on va dire, dans le temps. Ce qui est réparti à parts égales entre les enfants, qui profitent à ce moment-là de leur abattement personnel, 200 000 euros, qui annule complètement la base imposable. Donc 100 000 euros d'héritage moins 100 000 euros d'abattement, soit 0 euros imposable. Donc là, dans ces cas-là, les enfants de Monsieur Dujardin ne payent aucun droit de succession et ils ont économisé en tout au niveau de la famille 16 388 euros. Donc la renonciation, c'est vraiment intéressant justement pour ce type de situation où il y a un petit patrimoine qui est transmis puis après un plus gros. Justement, ça permet vraiment d'optimiser la transmission sans payer d'impôt sur la succession. Mais attention, parce que ça pourrait être beaucoup moins intéressant dans le cas d'un gros patrimoine, et là il sera plus intéressant d'utiliser d'autres types de stratégies, comme le démembrement par exemple. Donc imaginons justement le cas d'un gros patrimoine. Prenons le cas où vous renoncez à un héritage d'une valeur de 300 000 euros et que vous avez deux enfants. Dans ce cas-là, chacun hérite d'une part de 150 000 euros, on va dire 150 000 euros à part égale pour simplifier, et donc, en héritant vous-même, vous auriez payé 38 194 euros de taxes avec un abattement fiscal de 200 000 euros, mais en héritant à votre place, finalement vos enfants doivent payer chacun 19 097 euros de droits pour recevoir leur part. Finalement, ça, c'est un peu un cadeau empoisonné pour vos enfants, surtout s'ils n'ont pas de quoi payer ces droits de succession. Donc, même si vous pouvez payer toujours ces frais à leur place, s'ils n'ont pas d'économie justement pour les régler, et ça leur permettra en tout cas d'éviter de vendre le bien, ce qui est quand même le but de la manœuvre, pour régler ces frais de succession. Dans ce cas-là, c'était moins intéressant. Un autre avantage, par contre, de la renonciation, c'est que, très bien, ok, on peut très bien être amené à payer une part d'impôt sur la succession, mais imaginez le cas où vous héritez de dettes du défunt. Imaginons que vous héritez justement d'un crédit qui n'a pas été réglé, etc. Donc si le disparu a accumulé des factures impayées, des crédits, ce sont les héritiers qui sont responsables de ces dettes. Ça, c'est important à savoir. Donc les héritiers peuvent donc choisir de renoncer à un héritage tout simplement pour échapper au surendettement du défunt. Parfois, il faut savoir que la liquidation du patrimoine est suffisante pour payer les créances. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous héritez vous-même des créances. Alors, ce qu'il faut faire absolument, c'est soit tout simplement vous renoncez au patrimoine et donc également aux dettes, ou soit tout simplement vous dites, je reçois l'héritage à concurrence de l'actif net. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans ce cas, vous récupérez le solde de l'héritage après seulement le passage des créanciers, et donc après seulement avoir payé toutes les dettes. Mais s'il ne reste rien, vous n'avez rien à rembourser, ça c'est quand même un avantage. Quatrième stratégie, bien estimer le prix du bien lors de la succession peut vous faire économiser une belle part d'impôt. Dans le cas d'une succession, les héritiers estiment la valeur des biens immobiliers qu'ils reçoivent avec l'aide du notaire. Mais attention, car cette estimation doit être le plus juste possible. En effet, si les héritiers revendent un bien dont la valeur a été sous-estimée, c'est-à-dire qu'ils vont le revendre plus cher que l'estimation qui a été faite pendant le notaire, ils seront tout simplement imposés sur la plus-value. Et ça va considérablement augmenter la note de l'impôt sur la succession, vous l'aurez compris. Donc l'idée, en fait, dans ce cas-là, c'est que quand vous estimez le bien chez le notaire, faites appel à plusieurs agences immobilières indépendantes et indiquez chez le notaire l'estimation avec le montant le plus important, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Forcément, si vous vendez justement à un prix correspondant au montant de l'agence, vous ne serez pas imposé sur la plus-value. Et ça va vous permettre de vous faire économiser, croyez-moi, des milliers d'euros. Cinquième stratégie, utiliser le pouvoir de la SCI. Alors, pour découvrir les 6 astuces qui vont vous permettre une exonération totale d'impôt sur la succession et la donation via une SCI, je vous donne rendez-vous au prochain épisode du podcast qui va sortir très probablement ces prochains jours, puisque on ne va pas pouvoir tout traiter dans cet épisode qui est déjà un peu long. Et comme c'est un peu complexe, voilà, je pense que vous en avez déjà un peu pas mal plein les oreilles, on va dire, même si c'est très très important. Voilà, vous pourrez toujours réécouter cet épisode qui, j'espère, pourra vous aider justement à réduire votre note d'impôt sur la donation ou la succession. En conclusion, vous l'aurez compris, il n'y a pas vraiment de recette miracle pour échapper à l'impôt sur la succession. La meilleure stratégie, c'est de s'y prendre suffisamment à l'avance pour utiliser à fond les avantages de la donation du vivant, ou organiser un démembrement d'une partie de votre patrimoine, ou alors d'opter pour une renonciation. Alors, tout dépendra de votre situation, notamment de la taille de votre patrimoine, de celui dont vous hériterez, mais aussi du nombre d'enfants que vous avez ou du nombre d'héritiers qu'il y aura. Donc, le but de cet épisode, c'était vraiment de vous donner un éclairage sur les quelques techniques existantes pour annuler ou réduire votre impôt sur la succession. En tout cas, un rendez-vous chez le notaire sera vraiment indispensable pour faire le point sur votre situation et faire les bons choix d'un point de vue stratégique. Avant de vous quitter, si vous aussi vous souhaitez investir dans l'immobilier, soit peut-être acheter votre premier bien pour constituer un début de patrimoine, ou alors commencer à investir massivement dans l'immobilier justement pour transmettre un gros patrimoine à vos enfants, j'ai fait pour vous en fait 2 guides. Un premier justement qui vous expliquera comment réussir son premier investissement immobilier, et un deuxième qui vous montre comment moi j'ai réalisé un investissement massif qui m'a permis en moins d'un an d'investir dans plus de 500 000 euros de patrimoine. le tout sans apport et en partant de zéro. Vous pouvez télécharger ces guides en bas de la page d'accueil de mon blog qui s'appelle investissementimmobilierfacile.com et donc vous trouverez toutes les infos en bas de la page d'accueil du blog. Voilà, si vous débutez, que le challenge vous semble trop compliqué, sachez que je propose également des accompagnements personnalisés pour vous aider à investir dans l'immobilier. Donc, je propose uniquement pour les plus motivés d'entre vous une première session gratuite pour vous aider à mettre en place vos objectifs et à trouver la meilleure stratégie à adopter pour réussir vos investissements. Voilà, vous trouverez toutes ces informations à la fin du guide que vous pourrez télécharger sur le blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.